à son entrée. Tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde.
La petite phrase de Vinteuil traverse la recherche sans que Proust nous en révèle le mystère. Cinq notes fantômes qui hantent l'esprit de Swann réapparaissent bien plus tard aux oreilles du narrateur et incarnent ce qui échappe au langage et à l'écriture. Pour sa deuxième édition, le festival Jeux de Vagues se consacre à Proust, musicomane, aux airs qui l'ont habité et aux notes qu'il a disséminées tout au long de la recherche. Proust, dont la musique résonne dans chacune de ses phrases, confronte les disciplines du peintre Elstir, du musicien Vinteuil et de l'écrivain Bergotte, et mesure leur aptitude à donner un saint sens au monde. Puis nous continuerons en musique dans la galaxie de la chanteuse et comédienne lunaire Sandra Nkaké, qui de festival en festival chantera tout l'été. Nous allons parler de la petite sonate de Proust en compagnie de l'éminent proustien Jean-Yves Tadié, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, qui participe à la deuxième édition du festival de Dinard, Jeux de Vagues, sur ce thème Proust musicomane, des musiques exhumées au temps retrouvé, et en présence aussi de Cécile Leblanc, maîtresse de conférence à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, auteur de Proust, écrivain de la musique, l'allégresse du compositeur aux éditions Brepols. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on parle, quand on parle de Proust, on parle aussi d'une enquête que vous avez menée longuement, Jean-Yves Tadié, dans ces liens qui unissent la biographie de Marcel Proust à celle de la recherche. Vous avez aussi, vous, travaillé sur la musique de cette manière-là, et en cherchant les musiques qui avaient habité l'univers de Proust dans sa biographie, Cécile Leblanc.
Oui, j'ai essayé de retrouver ce que savait Proust, en fait, l'ambiance de l'époque et surtout les débats musicaux de l'époque qui avaient forcément influencé Proust et parmi lesquels il avait été obligé de faire des choix. Et il m'a semblé que Vinteuil était la résultante de ces débats musicaux orientés vers l'avenir et qu'il marquait en même temps toute la, tout le trajet de musicologue de Proust, commençant avec Saint-Saëns, Franck, Wagner, et finissant avec Debussy et au-delà, et s'intéressant sans arrêt à une musique de l'avenir, ouais, une musique moderne.
Jean-Yves Tadié, la musique de Proust, il y a eu sa formation, alors il n'était pas musicien lui-même, mais on sait que sa grand-mère et sa mère avaient été, elles, formées au piano, qu'elles avaient fait en quelque sorte son éducation musicale, et c'est une éducation qui va évoluer aussi au gré de ses rencontres et de ses lectures de
critiques. Oui, c'est beaucoup de choses à la fois. Dès l'enfance, il joue du piano, il lit des partitions et ensuite il va au concert. À l'époque où, bien entendu, le disque n'existait pas, c'est un auditeur assidu de nombreux concerts. Et ensuite, c'est un critique musical qui publiera quelques articles dans des quotidiens ou dans des revues. Et ce qu'il y a de notable, c'est qu'il s'intéresse à toutes les musiques. Cela va de la musique populaire, de l'opérette ou l'opéra comique jusqu'à Wagner. Et ça passe par les cafés-concerts, dont il est aussi à une époque un spectateur et un auditeur fervent. Et enfin, il deviendra le romancier de la musique qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il est musicien de toutes les manières, sauf celle qui consisterait à composer de la musique avec des notes. Il la compose avec des mots.
Alors, dans la musique qu'il a rencontrée, lui, sur son trajet, il y a eu cette évolution personnelle très importante qui passe par des rencontres. La musique, c'est celle aussi que l'on joue dans les salons, puisque on est avant l'époque de l'enregistrement. Donc, il y a plusieurs manières de la découvrir, et notamment dans les salons, où parfois on n'entend pas toujours très bien, parce qu'il y a ces bavardages, Jean-Yves Tadié.
Les Allemands, c'est la musique de chambre, bien sûr, essentiellement, peu de gens. Il y a quelques, au-delà de quelques parisiens, comme celui de la comtesse de Béarn ou de la princesse de Polignac, où on peut faire venir des orchestres. Mais en général, on s'arrête au quatuor, ou à deux musiciens, ou trois musiciens, ou un seul, ou un pianiste, le plus souvent. Et c'est ce que nous voyons dans La Chambre d'un perdu. Et Proust est en effet un peintre comique, souvent, dans son roman. Et pour faire rire, il ressuscite l'attitude du public mondain face à la musique. Et c'est d'où les scènes très comiques que tout le monde connaît, comme celle de Madame Verdurin, faisant semblant de souffrir physiquement lorsqu'elle entend les morceaux qu'elle aime le plus.
Cécile Leblond, vous, dans votre recherche, vous avez, dans votre recherche et votre enquête sans mauvais jeu de mots, vous avez travaillé aussi sur ces rencontres musicales. Alors, on sait de Proust, par la correspondance qu'il a entretenue avec lui, qu'il y a eu cette rencontre importante avec Reynaldo Hahn, qui va aussi avoir une importance dans sa formation musicale, puisque, en quelque sorte, cette amitié amoureuse va participer de sa culture.
Oui, et dans tous les sens du terme, puisque en effet, avec Reynaldo Hahn, il acquiert sans doute une certaine technique, une musique de l'intérieur, si je puis dire. Il va aussi rencontrer un certain nombre de musiciens et de mécènes. Il va sans doute pénétrer dans certains salons grâce à Reynaldo Hahn. Et en même temps, ils s'y opposent, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent dès leur liaison à discuter avec Reynaldo Hahn. Et la recherche porte un certain nombre de ces discussions, thèses, antithèses, bon, à propos de Wagner, mais à propos d'autres. Bon, ce que Reynaldo Hahn n'aime pas trop, ce que Proust apprécie, et puis des débats entre eux à propos de Ferval, de Dindy, à propos de Debussy. Et donc, ce qui est intéressant dans leur relation, puisqu'ils sont restés extrêmement proches jusqu'à la mort de Proust, ce sont ces débats, ce sont ces discussions qui l'ont enrichi. Et Reynaldo Hahn est quelqu'un qui lit beaucoup et qui connaît aussi beaucoup de littérature. Donc leurs débats ont été musicaux mais aussi littéraires, donc sur les deux terrains.
On va écouter Jérôme Bastianelli dans l'émission Notes de traduction, c'était sur France Musique le 27 juin 2015, et il va nous lire l'une de ses lettres.
En 1912, Reynaldo Hahn a écrit un cycle pour piano qui s'appelle Le Rossignol est perdu. Et il envoie la partition à Proust, qui est à Cabourg. Et Proust lui répond, il y a une lettre assez mignonne, où il se moque un petit peu de son ami et des indications qu'il a données au pianiste dans sa partition. Alors il écrit donc en 1912 à Reynaldo Hahn, « Je n'ai pu jouer ton Rossignol parce que je suis couché, mais j'ai lu les titres, épigraphes, indications. » Je ne sais si les pianistes à l'endroit où il leur est prescrit de jouer occidentalement ne te demanderont pas quelques explications. Il est vrai que les explications doivent être du genre de celles que tu crois bon pour plus de clarté d'ajouter entre parenthèses telles que rêverie de Calvin adolescent. Cela ne les avancera peut-être pas à grand-chose, mais en tout cas, cela leur clouera le bec. Et puis, occidentalement, à l'avantage qu'à côté de lui, qui songerait à s'étonner d'Argentins, de flâneurs, avec une mélancolie moqueuse, etc., etc. Et ce occidentalement, on le retrouve dans la pièce qui s'appelle Narguilé, du cycle Le Rossignol est perdu.
Jean-Yves Tadié, on vous entendait rire pendant cette lecture. Pourquoi est-ce que vous riez ?
Bien, évidemment, Proust se moque de Reynaldo Hahn. Et c'est amusant d'ailleurs de voir, c'est une habitude de l'époque d'écrire ses attitudes. Debussy emploie aussi des mots de ce genre, et surtout Eric Satie est le champion de la formule humoristique en marge des partitions. Donc il y a évidemment une drôlerie aussi chez Reynaldo Hahn qui unissait les deux amis, le goût de la plaisanterie, ils pouvaient tout se dire, et sur ce ton assez féroce que Proust emploie avec lui, on retrouve leur amitié profonde et leur complicité humoristique.
Alors on retrouve justement dans cette complicité avec Proust toute une époque aussi de compositeurs. Reynaldo Hahn aura moins marqué de manière posthume que d'autres musiciens de son temps. Donc on a parlé de Satie, de Camille Saint-Saëns, mais aussi de Ravel. Les goûts musicaux de Proust vont évoluer petit à petit au fur et à mesure que sa culture va grandir, notamment de par la lecture de la presse, les chroniques, la presse spécialisée, le Gaulois.
Oui, je crois que Proust a eu sans arrêt le souci de la musique de son temps. C'est-à-dire que même si dans les brouillons de la recherche, on s'aperçoit que la sonate de Saint-Saëns reste à peu près jusqu'en 1910, le modèle de la sonate qui deviendra la sonate de Vinteuil, après 1910, il se rend compte qu'il y a une autre musique et que c'est cette musique-là qu'il faut qu'il travaille pour Vinteuil. Donc il a le souci sans arrêt, probablement en lisant beaucoup la presse musicale, de que Saint-Saëns se démode et qu'il y a tous les autres compositeurs auxquels il faut s'intéresser.
Alors vous dites la sonate de Saint-Saëns qui deviendra la sonate de Vinteuil. Est-ce que justement ça ne prête pas à débat tout ça, puisque finalement dans la recherche Proust ne dit pas exactement ce que c'est que ces cinq notes.
Il le dit dans les brouillons. Dans les brouillons c'est clair, il le dit. Sonate de Saint-Saëns, elle est citée, etc. Et ensuite évidemment, il abandonne et puis Vinteuil, c'est tout à fait autre chose. C'est en effet toutes les autres influences, Franck, Debussy, enfin, on peut y voir toute la musique contemporaine. Mais au départ, dans les brouillons en tout cas, c'est quand même, il s'appuie sur Saint-Saëns. Et je pense qu'il fait basculer ensuite Saint-Saëns dans un monde qui est perdu. Puisque, par exemple, dans un des grands monologues de Charlus sur la musique, j'ai pu montrer qu'il s'agissait d'un article de Saint-Saëns repris quasiment intégralement. Donc en mettant Saint-Saëns dans la bouche de Charlus, il en fait un personnage démodé, un personnage d'un autre monde.
Donc la lecture des articles, ça va servir aussi de matériau d'écriture. D'ailleurs, la musique, c'est une forme d'écriture, Jean-Yves Tadié, non seulement parce que peut-être que dire la musique peut dire tout ce que le langage n'arrive peut-être pas à exprimer. En tout cas, il y a cette forme de concurrence entre les arts et ce questionnement de Proust face à la capacité qu'a la musique à rendre autre chose de l'émotion et du monde.
Dans la chose du perdu, en général, il y a plusieurs degrés dans la connaissance. Et la connaissance de la musique dans Amour de Swann n'est absolument pas celle qu'elle est vers la fin de l'œuvre dans La Prisonnière. Ce que montre très bien Proust, c'est qu'on peut écouter la musique d'une manière un peu superficielle ou même sentimentale. C'est le cas de chacun. On est triste en écoutant une musique triste, gay en écoutant une musique gay. Or, ce n'est absolument pas ça. Comme ça qu'il faut écouter la musique, il faut la comprendre finalement comme lorsqu'on écoute le Septuor de Vinteuil dans La Prisonnière, c'est-à-dire qu'on est renvoyé à un déchiffrage du sens du monde, à un équivalent sonore de ce qu'apporte la plus belle littérature ou la plus belle peinture, avec cette note en plus que Proust appelle la communication des âmes, la communication sans les mots.
Alors là, c'est tout le travail de l'artiste que de partir justement de cette sensibilité de départ pour finalement arriver à une véritable œuvre artistique qui est complètement autre.
Oui, absolument. C'est comme ça que les choses se passent. Et les personnages ne gravissent pas forcément tous ces escaliers, tous ces degrés de la connaissance musicale. Certains restent une audition frivole ou populaire, celle que Proust avait décrite si bien dans son article « L'éloge de la mauvaise musique », et l'autre arrive à la compréhension des plus grandes œuvres. Vinteuil, finalement, ne doit pas être réduit à des clés, seulement si belles qu'elles soient, comme Fauré ou Franck, ou Leia Wagner, mais c'est une figure en quelque sorte de vide où chacun peut mettre le grand compositeur d'aujourd'hui ou de demain.
Alors ces grandes figures justement qui représentent les trois arts mis en valeur, il y a le peintre Elstir, il y a le musicien Vinteuil, d'ailleurs sorte de génie méconnu, mais il y a aussi le triste professeur de piano Vinteuil qui est moins séduisant que sa petite phrase, et il y a l'écrivain Bergotte. Alors ces trois arts sont dessinés de manière très très différente par l'auteur Jean-Yves Tadié.
Absolument, mais à chaque fois, c'est avec l'idée que l'homme n'est pas l'artiste. C'est-à-dire que connaître l'homme, si intéressant que ce soit, ne permet jamais de comprendre son œuvre. Et en revanche, entendre son œuvre ne permet pas non plus de deviner l'aspect physique ou la vie privée du créateur qui lui a donné ses sens. Ça, c'est l'une des idées fondamentales de Proust. Ce sont deux mondes différents.
Alors, il y a encore une grande difficulté, c'est celle pour l'écrivain de réussir à écrire la musique, à dire la musique, Cécile Leblanc.
Oui, hélas, ça a été sans doute la plus grande difficulté de Proust, d'autant qu'il hérite en quelque sorte d'un débat qui commence en gros avec Berlioz et qui parcourt tout le 19e siècle, à savoir qui doit écrire la musique, et souvent c'était les écrivains, et qui employaient des métaphores plus ou moins hasardeuses. On s'est beaucoup moqué de celle de Théophile Gautier ou même celle de Balzac. Et donc Proust va être obligé de prouver sa légitimité. L'écrivain peut écrire la musique sans peut-être donner dans trop de métaphores hasardeuses, sans donner non plus dans la technique qu'on reproche aux musicologues. Donc trouver une voix originale et qui est vraiment là le génie de Proust, je trouve, d'arriver à écrire des partitions de Vinteuil qui ne sont ni celles de vraiment d'un littéraire ni celles d'un musicologue. Dans les brouillons, il y a des éléments techniques qui ont tous disparu à l'arrivée pour donner une sorte de texte pur correspondant à cette musique pure qu'il avait en objectif.
Et cette présence fantomatique, Jean-Yves Tadié, presque intérieure, puisque la petite phrase de Vinteuil, telle qu'elle est entendue par Swann, qui voit tout son amour pour Odette, par le narrateur, par d'autres personnages évoqués, n'a rien à voir. Elle est aussi une musique intérieure.
Absolument. Mais en même temps, je crois que nous tous, nous avons été heureux un jour ou l'autre d'entendre un équivalent sonore de la petite phrase. Ça commence à la sonate de Kreutzer. Puis ça se continue, bien sûr, par celle de Fauré, puis par celle de Franck, celle de Saint-Saëns. Et on a pu en suggérer d'autres, moins convaincantes d'ailleurs, ou même à l'époque contemporaine, essayer d'en écrire de nouveau. On a tous eu besoin de la matérialiser, cette lecture de la petite phrase.
Cette fois, il avait distingué nettement une phrase, s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître. Et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, intelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement elle changeait de direction. Et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois.
Cécile Leblanc, on entendait la lecture de du Soulier, un extrait du côté de chez Swann dans le volume 1. Et finalement, c'est aussi un jeu de cache-cache avec le lecteur, puisque cette sonate qui apparaît et qui disparaît, elle réapparaît maladroitement sous les doigts d'Odette. Mais finalement, il y a quand même ce plaisir de la retrouver, même devenue un peu laide.
Oui, et ce plaisir correspond aux différentes écoutes, ce que disait Jean-Yves Tadié tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter comme Swann, on peut l'écouter et la jouer comme Odette, on peut l'écouter comme le fera le narrateur, qui au terme d'un long processus va réussir à comprendre et surtout, en devenant écrivain, à pouvoir écrire la musique. Et à travers ces étapes, je pense qu'on peut voir aussi toute une histoire de la critique musicale. C'est-à-dire que Swann perçoit la sonate en critique du 19e siècle, qui doit être dépassé par ce narrateur qui devient, lui, un critique du XXe siècle, ce qui lui permettra, in fine, de devenir écrivain. Donc toutes ces étapes sont très utiles à la construction de l'œuvre.
Y compris des œuvres qui vont être ressuscitées. Hein. Ça sera le cas de la bonne amie de Mademoiselle de Vinteuil qui, en fait, va faire ce travail de reconstitution aussi de la sonate. Il y a toute la découverte aussi qu'a pu avoir Marcel Proust dans sa vie, dans sa biographie, de l'opéra. Alors c'est aussi l'époque de nouvelles inventions, du théâtrophone notamment. Justement, comment est-ce que, Cécile Leblanc, vous avez travaillé sur la manière dont il a pu écouter la musique, la découvrir, notamment à travers le théâtrophone, dont il faut peut-être rappeler les principes.
Alors, les principes, sont ceux du téléphone. Et grâce au téléphone, on peut se brancher sur un certain nombre de théâtres parisiens, y compris d'ailleurs des théâtres de musique plus légère, comme la Scala, pas celle de Milan, celle de Paris. Et donc, il écoute, et il le dit d'ailleurs, il le confie à un de ses amis, on entend très mal. C'est-à-dire qu'on imagine Proust écoutant tout un acte des maîtres chanteurs au téléphone, ce qui devait être une épreuve. Mais je pense que c'est pour lui une épreuve moins importante que de celle que d'écouter la musique dans la salle, où, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a énormément de bruit, de conversation, chose qu'il supporte de moins en moins. C'est quelqu'un qui aime...
À l'opéra comme dans les salons ?
Oui. Parce que on sait que Charles Lamoureux, par exemple, se gendarmera pour avoir un public à peu près silencieux. À l'opéra, c'est très compliqué. C'est pas encore Bayreuth. On rentre quand on veut, on sort quand on veut, on parle. Donc c'est dans toute la presse de l'époque, on voit ces plaintes contre ce public qui est tout sauf silencieux. Donc au théâtrophone et puis ensuite au pianola, dont il va louer régulièrement les rouleaux, il est seul et sans doute moins gêné par ces bruits de ces bruits du public, tout
du bavardage autour de lui. Jean-Yves Tadier, il y a aussi les conditions d'écoute qui sont celles de lecteur éclairé, celui qui a lu la critique, qui a accumulé une culture musicale suffisante pour pouvoir réécouter la musique différemment.
Oui, ça c'est ce qui se passe dans la recherche d'impérialité, bien sûr, mais peu de personnages sont décrits comme de réels amateurs de musique, presque aucun finalement, à part le narrateur lui-même. Tous les autres s'arrêtent à des stades mondains, superficiels. L'opéra, par exemple, Cécile de Blanc parlait très bien, c'est une occasion de rencontre mondaine. On loue des loges et puis on reçoit des visites.
L'opéra
de temps en
comme
temps,
le
on
théâtre.
Jette un coup d'œil. Oui, peut-être qu'on est encore moins attentif à l'opéra qu'au théâtre.
Alors c'est peut-être l'un des désœuvrements face à cet art-là que de se dire peut-être le musicien restera-t-il encore plus incompris ?
Oui, absolument. C'est pour ça que Wagner a imposé ces conditions draconiennes au théâtre de Bayreuth. C'est parce qu'il voulait que ses œuvres fussent écoutées religieusement.
Alors on va écouter le philosophe Clément Rosset. C'était dans l'émission Note contre Note sur France Musique le 21 février 2010.
Tout en faisant la musique le meilleur de nos aliments pendant notre vie, je suis également de l'avis de plusieurs, dont le dernier en date est Stravinsky, que la musique n'exprime absolument rien de ce que nous pensons, de nos sentiments, de nos colères, de nos joies, en sorte que c'est une erreur de départ que de dire, comme le font beaucoup de, par exemple, comme on entend encore dans toutes les formes de tribunes de critiques de disques, de dire mais elle n'est pas assez en colère, elle n'a pas assez de ressentiment, elle veut dire ceci, elle veut dire cela. Mais pas du tout. Il ne parle pas de musique. Il parle, certes, de quelque chose qui a à voir avec la musique, mais qui, comme le dit Stravinsky, je vais vous lire deux, trois lignes, qui, comme le dit Stravinsky, est un élément additionnel, secondaire. Bon, vous connaissez, tout le monde connaît un peu ces phrases qui ont horrifié tout le monde musical. Je considère la musique, par son essence, impuissante à exprimer quoi que ce soit. Un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. L'expression n'a jamais été la propriété immanent de la musique.
Cécile Leblanc, outre la provocation des phrases de Stravinsky, on entend aussi ce qui a pu être dit précédemment par Jean-Yves Tadié, à savoir que ce n'est pas la vocation de la musique que l'expression des sentiments en elle-même. Et d'ailleurs, Proust nous dit qu'on ne peut que décrire ce que fait la musique et non ce qu'elle est. C'est l'une des difficultés pour l'écrivain que d'écrire la musique.
Oui, justement, c'est vraiment là où se situe le nœud de la réflexion de Proust et de l'évolution de ce narrateur qui finit par décrire le fameux Septuor de Vinteuil comme des baguettes qu'on taperait sur une table. Enfin, quelque chose finalement d'extrêmement moderne, un bruit. D'ailleurs, Proust a été très influencé et très intéressé par tout le bruitisme. Et justement, dès qu'on parle de bruit, là, il n'y a plus de, sentiments, il n'y a plus d'éléments. Il dit à un moment simplement que peut-être dans la musique de Vinteuil passe le souvenir du sommeil de sa fille. Mais peut-être, on n'en sait rien. Et on a simplement un son pur. Et ça, c'est ce que le narrateur comprend à la fin du roman, dans la prisonnière.
Alors pourtant, le son de la sonate de Vinteuil ne s'arrête pas au travail de la mémoire. Jean-Yves Tadier, il y a aussi ce corps que Marcel Proust lui donne, puisque la sonate, elle est odorante, elle a justement des vertus, elle est rattachée d'une certaine manière à la réalité de ce qu'elle fait au personnage.
C'est vrai, mais la sonate est reconstituée, elle est décrite dans sa structure, en gros, mais elle est également décrite par métaphore. C'est le propre de l'artiste d'utiliser non pas l'enchaînement des raisons comme le philosophe ou le scientifique, mais les images. Et Proust pense et écrit par images, c'est comme ça qu'il l'a fait voir, et voir est bien le mot, et entendre aussi, tout en se gardant du piège de l'harmonie imitative qui consisterait à faire chanter les mots artificiellement. Quant au débat de Clément Rosset, je pense à la phrase de Malraux, l'artiste ne crée pas pour s'exprimer, il s'exprime pour créer. C'est tout à fait le cas de Proust et de la façon dont il décrit la musique. Cette expression sonore est faite pour créer un monde.
Alors, Cécile Leblanc, dans cette question de l'expression, il y a aussi la satire qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, la satire, c'est pas simplement parce que la musique, elle a un ancrage social qui correspond à certains cercles. C'est aussi parce que la musique peut être drôle ou parce que la musique se décline dans tous les genres, d'un genre populaire à un genre plus noble socialement.
Oui, et c'est peut-être pour ça qu'elle est, et ça Proust en est persuadé depuis son moment Schopenhauer, si on peut dire, dans sa jeunesse, qu'elle est supérieure à tous les autres arts. C'est-à-dire qu'elle elle peut en effet englober à la fois toutes les situations humaines et tous les genres. Et donc, en effet, la question qui se posera, c'est que son livre, le livre du narrateur, devienne quelque chose comme la musique, qui peut en effet englober tous les genres, tous les styles et toutes les possibilités. Comment... Cette musique qu'il adore, cette musique de music hall, à la musique la plus sérieuse, terminant par Ravel, qui est présent dans les derniers volumes.
Cécile Leblanc, vous avez été très justement sensible à la manière dont Proust a suivi la musique, de sa venue au spectacle jusqu'à son écoute dans le noir, puisqu'il en a fait aussi l'expérience.
Oui, alors... C'est dans la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'écoute en aveugle, finalement, lui permet une réflexion que ne permet ni la salle de spectacle, ni la salle de concert, ni l'écoute avec d'autres personnes. Et quand il fait venir des musiciens chez lui, le quatuor Capet entre autres, il leur explique bien qu'il va se mettre, lui, en retrait, dans le noir, et qu'il va écouter cette musique totalement en aveugle.
Alors, est-ce que Jean-Yves Tadier, c'est pas finalement autre chose que cette concurrence entre les arts, mais la même chose? Est-ce que finalement, c'est pas la musique dans l'écriture, cette musique qui l'a aussi inspirée, cette musique que l'on entend en tant que lecteur chaque fois qu'on lit une phrase de Proust? Est-ce que c'est pas cette musique-là aussi qui est au cœur de ce festival qui a lieu, à savoir Proust musicien lui-même?
Oui, il est tout à fait vrai que la phrase de Proust a quelque chose de musical, mais pas comme on croit. C'est-à-dire que c'est pas comme un vers de Verlaine qui imitera les sons. Elle est musicale dans le sens où, par exemple, si on lit la dernière phrase du temps retrouvé, on a presque envie de voir la main du chef de l'orchestre esquisser la montée des pensées et des sons et leur chute finale.
Donc elle a quelque chose de ce souffle particulier
dont on a pu... Elle rejoint la structure même de la musique à ce moment-là.
On a même pu dire de Proust que peut-être ses phrases étaient très très longues pour se venger de cet asthme qui a justement ravagé son existence. En tout cas, il y a ce côté, ce rythme qui lui est propre. Alors est-ce que ce rythme-là a pu naître aussi de ses influences musicales, Jean-Yves Tadier ?
C'est très possible, oui, ça c'est tout à fait mystérieux. Proust a absorbé mille choses. Sa culture était gigantesque dans tous les domaines. Et donc, de tout cela, il a fait une combinaison dont le mystère nous échappe. Et la musique entre bien sûr éminemment dans sa... C'est d'ailleurs un trait de cette époque, du symbolisme en général, que l'idée de reprendre la musique son bien, comme disait Mallarmé. Proust a critiqué Mallarmé, mais c'est la même idée.
Cécile Leblanc, vous nous avez révélé justement que l'on avait un peu plus de traces que l'on ne pensait, à la fois de la sonate de Vinteuil, mais aussi de l'écoute qu'avait Proust. Vous avez trouvé des abonnements qu'il avait à l'opéra, par exemple.
Oui, alors ça c'était une enquête que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener sur les traces de Proust, auditeur de la musique.
Auditeur de la musique de son époque.
De son époque, bien entendu. Donc ce qu'il écoutait, ce qu'il avait pu écouter à l'opéra, les traces qu'on en avait dans la recherche, mais aussi en effet grâce à cet abonnement de cette loge et puis ce fauteuil qu'ils ont eu jusqu'à la mort du docteur Proust. Donc on peut savoir à peu près quel spectacle il a été voir, quel concert il a pu, enfin certains nous échappent évidemment, mais cette idée d'un Proust au concert, même tel que le décrit Vilil, le mari de Colette, c'est tout à fait intéressant et tout à fait amusant en même temps de mener cette enquête.
Merci Cécile Leblanc et merci Jean-Yves Tadié d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Cécile Leblanc, votre ouvrage s'intitule Proust, écrivain de la musique, l'allégresse du compositeur, et c'est aux éditions Brepols. Quant à vous Jean-Yves Tadié, il y a bien sûr votre immense travail critique et vous avez fait paraître en février dernier une édition enrichie d'Un amour de Swann et Marcel Proust en folio.
France Culture, la grande table d'été. Maïlys Bessery.
J'ai ouvert mon cœur et mon monde. Je ne veux pas oublier. Je veux aimer ma vérité. Thank you.
Et c'est, vous venez d'entendre The Down, la première chanson de l'album Tangerine Moon Wishes de Sandra Nkake. Sandra Nkake, qui est à mes côtés, mais dont l'imaginaire s'est envolé pour cet album jusqu'à atteindre une lune rousse rêvée, un nouvel espace musical de douceur, de poésie, même de silence, un espace qui résiste à la rumeur du monde. Sandra Nkake, bonjour.
Bonjour.
Alors, un nouvel espace musical, vous avez justement eu le souhait de créer un espace qui parfois s'arrête, où la musique parfois s'arrête et redémarre.
Alors c'est vrai que les mots-clés qui ont guidé notre écriture pour cet album, c'était vraiment voix, souffle et silence. C'est vrai qu'on est dans un monde où l'efficacité, la rapidité, l'ultra-consumérisme sont souvent mis en avant. Et moi, j'étais plutôt à un moment dans ma vie où j'avais besoin de calme, en fait, de calme, de douceur, de réapprendre à regarder le monde avec bienveillance. Et pour ça, il faut du silence. Je pense que la musique résonne d'autant mieux qu'il y a du silence, en fait.
Il y a du silence que l'on retrouve même parfois à la fin des morceaux et qu'on a gardé en l'enregistrement. C'est le cas de cette chanson-là. Vous aviez envie que la musique, elle apparaisse aussi dans ses creux.
Oui, et c'est vrai que la manière de l'enregistrer était aussi très importante. Et ça, on l'avait à l'esprit dès le moment où on a commencé l'écriture des chansons. On savait que on voulait enregistrer de manière le plus organique possible, c'est-à-dire être tous ensemble dans un studio et enregistrer en même temps, et non pas partie par partie. Ce qui a donné des moments évidemment magiques et imprévus que l'on a gardés.
Vous dites « on » parce qu'il y a aussi le flûtiste Didru.
Il y a aussi, voilà, Didru avec qui j'ai co-composé et co-réalisé cet album. Et puis nos partenaires musiciens et musiciennes, c'était quand même assez génial de leur dire « voilà, on va faire une espèce de saut dans un vide ». Chaque prise que l'on va enregistrer, on va l'enregistrer du début jusqu'à la fin, sans interruption. J'avais envie et besoin de ça parce que j'avais cette sensation que ça allait nous permettre d'être au plus près d'une forme de justesse dans l'interprétation et donc amener forcément de la fragilité, des erreurs, mais ce qui fait partie du parcours aussi de l'écriture, d'accepter qu'en fait on n'est pas des super-héros, qu'on est fragile et que c'est cette fragilité-là que j'avais envie de partager.
Donc Sandra Nkake, c'est la musique enregistrée comme si elle était un spectacle vivant, comme si vous étiez sur scène, comme si c'était un live.
Alors,
sauf qu'on est en studio,
c'est pas la même chose parce qu'on n'est pas en live dans le sens où il n'y a pas un public à qui on raconte une histoire. Là, en fait, on est vraiment au début de la création où on se raconte l'histoire à nous-mêmes et où on se permet de doser des choses. Donc effectivement, aussi on avait un très bon partenaire de son qui s'appelle Jean-Baptiste Brune, qui a permis que tout soit fait en douceur, que l'on entende les moindres petits craquements dans la voix, dans les clés de flûte, dans les cordes de guitare ou de basse, parfois transformer la batterie en quelque chose de beaucoup plus percussif, presque tribal, quoi. Et ouais, c'était vraiment un moment vivant, ouais.
Alors il y a ce voyage que vous décrivez presque comme un voyage chamanique, puisqu'il y a cette lune rousse qui nous attend quelque part. En tout cas, c'est un voyage aussi. Vous avez une carrière qui a navigué du théâtre au cinéma et à la musique, des carrières qui se passent d'ailleurs de manière un peu parallèle, et un mélange aussi de cultures depuis le Cameroun jusqu'à Paris. Comment est-ce que vous imaginez ce voyage qui, lui, se situe plus du tout sur Terre, mais complètement dans une vision peut-être un peu au-dessus de toutes ces considérations-là?
Alors, pour moi, la lune rousse, c'était pas du tout un astre ou quelque chose de lointain. C'était au contraire un espace secret très très intime. En fait, la lune rousse, elle représente cette image de soi que j'espère bienveillante. C'est un mot que je dis beaucoup en ce moment, mais parce qu'il est vraiment important. Pour moi, la lune rousse, c'est ce voyage que l'on fait en regardant son parcours et en se disant qu'en fait, on a le droit d'être fragile, on a le droit d'être lent, on a le droit d'avoir des cicatrices. C'est aussi ce qui fait la beauté de notre vie. Et voilà, c'est vraiment un voyage pour apprendre à s'accepter comme on est. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je fais de la musique, du théâtre, du cinéma, et que quelque part, mes projets ont construit une forme de... voilà, une forme de ligne. Et puis moi, je me suis créé une forme de... je dirais pas de carapace, mais en tout cas, peut-être d'armure. D'armure parce que le monde dans lequel on est n'est pas accueillant pour les personnes sensibles, les personnes émotives et les personnes un peu en retrait, et que cette carapace m'a protégée longtemps jusqu'au moment où elle m'a étouffée en fait, et j'avais envie de pouvoir partager quelque chose de très intime, c'est-à-dire une partie de moi plus timide, plus vulnérable, et pas vouloir la mettre de côté.
Alors, vous n'êtes pas la seule à penser qu'il faut dire les choses doucement pour résister. Il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, Léonore Amiano, qui parle aussi de ça, de cette capacité qu'on peut avoir à se faire entendre. C'était dans Passo Doblé, le grand entretien de l'actualité culturelle sur France Culture, et c'était le 19 septembre 2016.
Léonore Amiano, vous avez pris une voix très très douce pour cet extrait.
Je suis une personne très douce. Peut-être pas à Mandela, mais moi je suis une personne très douce. Et je pense que, de façon générale, si on veut dire des choses fortes, il ne faut pas crier. Je donne souvent des récitals poétiques, donc j'écris des textes poétiques et politiques, qui sont parfois difficiles à entendre. Et je pense que si je venais sur scène en criant, je ne pourrais pas du tout être écoutée. Quand je parle de la race, quand je parle de l'immigration non choisie, vue d'Europe alors après avoir envahi le monde par exemple, je pense qu'il faut exprimer tout ça de manière apaisée, pour que ça arrive au cerveau des gens, que ça s'arrête pas seulement là où ça fait mal, qu'ils arrivent à l'entendre et qu'ils puissent y penser, même s'ils sont pas d'accord. Parfois les gens sortent, hein, ils sont trop agressés parce que je leur dis et qu'ils ne s'étaient pas imaginés. Mais je suis pas dans le cri, je ne suis pas dans l'invective, je n'ai pas de désir de revanche. Je veux vraiment qu'on réfléchisse à ces questions tout simplement pour avancer. Donc je viens pas gueuler, je fais jamais ça.
Sandra Ngaké, est-ce que c'est justement cette résistance douce, vous, dont vous vous sentez aussi l'héritière, qui permet d'exprimer des choses fortes par la poésie, et cette forme qui permet peut-être d'être écoutée, y compris sur des thématiques extrêmement sensibles, comme celle que vient d'aborder Léonore Amiano?
Je suis tellement d'accord avec elle, et tellement émue d'entendre sa voix, parce que c'est vraiment une artiste qui m'émeut et qui m'accompagne depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, je lui ai dit déjà à plusieurs reprises, mais que la saison de l'ombre a beaucoup influencé l'écriture de cet album, notamment la chanson Nuit. Oui, quoi qu'il en soit, je reste fondamentalement positive quant à notre capacité collective à nous améliorer. Et je parle de nous en tant qu'êtres humains, en tant qu'espèce en voie de développement. J'espère vraiment qu'on va s'améliorer, mais pour ça, il faut créer des espaces de dialogue. Et on ne peut pas dialoguer en hurlant. Ça, c'est vrai. Alors parfois, il est important de se faire entendre, notamment par les voix de la rue, de la manifestation. Mais je pense que la parole artistique, elle est importante pour ça. On dit souvent qu'on est des troubadours, mais notre place, elle est importante. Parce qu'elle permet de créer d'abord du lien social, elle permet évidemment du dialogue, mais elle permet aussi de l'écoute, elle permet du questionnement, elle permet de remettre en question notre vision du monde. Donc effectivement, on essaye d'aborder... pour moi, la musique n'est pas du tout une finalité. C'est vraiment un moyen d'exprimer ma manière de voir le monde.
D'ailleurs, vous travaillez ces formes multiples, puisque même dans cet album, dans La Lune Rousse ou dans d'autres chansons, il y a cette forme de chant qui est aussi une forme parlée. On est presque aux frontières entre la poésie, la diction et le chant.
Oui, c'est vrai. Et je suis assez chanceuse de pouvoir le faire de manière indépendante et puis d'avoir pu le faire en album, mais aussi de pouvoir le retranscrire sur scène. Parce que pour moi, c'était très important. Pour moi, il n'y a pas vraiment de frontière, en fait, entre est-ce que c'est du théâtre, de la poésie, de la musique. En fait, on va dire que c'est une forme, c'est un voyage que j'imagine. Et dans ce voyage, il y a plein de décors, plein de sentiments différents. Et j'essaye de les faire, de les écouter et de leur donner vie, tout simplement. Donc voilà, on essaie de faire des propositions qui nous ressemblent.
Donc cette transversalité, elle permet plusieurs moyens d'expression. Elle permet aussi de prendre des risques, de chanter a cappella, de s'éloigner de toute cette dimension très technique de la musique de studio ou de la musique telle qu'elle est souvent pratiquée. Est-ce que vous accepteriez de nous chanter quelques notes a cappella ?
Sky ain't the limit. Go higher, don't be scared. Spread your heart beyond the limit. Bend over your mind and your spirit. When you believe in something stronger than yourself, when you realize you're not alone, go higher than your limits. Don't you listen to your fears. Go higher, be the spirit, and forever be the gear. Your life's only what you make it. Your dreams waiting there for you.
Merci Sandra Nkake, merci. On vous entend chanter en anglais, il y a ce mélange d'influence alors à la fois dans les langues et aussi dans votre voix, dans les musiques.
Ben, je pense que je suis faite de plein de choses.
L'album, il est en français et en anglais.
Oui, exactement, en français et en anglais. Il y a plusieurs chansons en français, plusieurs textes dits en français aussi. Et ben, je pense qu'il est vraiment le reflet de mon enfance, c'est-à-dire que moi je suis née au Cameroun, d'une famille franco-camerounaise comme on dit, et au Cameroun on parle anglais, on parle français, et à la maison c'était pareil. Donc quand j'écris, je me pose pas vraiment la question de la langue, ça vient assez naturellement, et j'essaie d'embrasser ce qui vient. Et pareil, pour ce qui est des styles musicaux, je me pose pas tellement la question du style, mais plutôt de l'énergie que j'ai envie que ça dégage. Et de cette énergie-là, un décor va naître, et de ce décor, une instrumentation. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. Donc, je pense que dans ce que j'écris, il y a à la fois des choses que j'ai écoutées, peut-être récemment, peut-être il y a très longtemps, que ce soit de la musique classique, du jazz, du rock, de la pop, mais aussi beaucoup de films, beaucoup de littérature, des expositions, des repas avec des amis, des rencontres avec des associations, avec des... Enfin voilà, je pense que je suis inspirée et forcément impactée en fait par la vie, tout simplement par mes rencontres, par les gens.
Alors vous parlez des associations, on va parler aussi de tout ce volet-là de votre vie. C'est aussi la question du sens et du sens que l'on donne à l'art. Je vous propose d'écouter Michel Butor. Il a été l'invité de Boomerang le 29 janvier 2016.
Un de mes livres s'appelle « L'utilité poétique ». Ce sont des conférences que j'ai faites sur ce à quoi sert la poésie. Et... parce que souvent on dit la poésie c'est de l'inutile, vous voyez, ou la culture c'est l'inutile, et parce que c'est inutile que c'est beau, etc. Je suis tout à fait contre cette façon de voir. Je pense qu'il faut s'interroger justement sur l'utilité de tout. Sur qu'est-ce que ça nous apporte à nous? De quelle façon cela nous permet de vivre et aussi de voir, donc de pouvoir changer les choses qui ne vont pas. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont très mal.
Vous voulez dire aussi qu'on est en perte de sens en ce moment ?
Nous savons tous, oui. Ça, les choses ne tournent pas rond du tout. Donc, il faut trouver le moyen de les changer. Mais comment faire ? Eh bien, pour ça, il faut regarder, il faut comprendre, il faut enlever des écrans, hein, donc défaire des mensonges qui sont pas des mensonges individuels, qui sont la façon dont une société voit la réalité autour d'elle.
Sandra Nkake, vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Butor? Finalement, il faut enlever certaines couches pour y voir plus clair. C'est aussi le rôle des artistes, hein, que d'offrir un autre regard, l'attention que l'on porte, alors que vous portez au monde, à la politique, au modèle de société, à l'attention que l'on porte à la nature, par exemple.
Oui, je pense que c'est notre rôle, mais pas simplement parce qu'on est artiste, mais parce qu'on est humain, locataire de cette planète. Il se trouve que la manière qu'on a de l'exprimer, c'est la manière artistique et poétique. Mais oui, enfin, comme il dit, le monde ne tourne pas rond, et on est vraiment à la course à qu'est-ce qui est utile dans le sens rentable. On a perdu de vue que pour vivre, il faut plein de choses. Effectivement, il faut que la machine physiologique fonctionne, mais il faut aussi que l'esprit fonctionne et qu'il soit heureux, qu'il soit léger. Et pour ça, il faut pouvoir évidemment être en bonne santé, mais être curieux du monde. Et pour ça, il faut vivre en paix. Or, on n'est pas du tout en paix. On est complètement oppressé par une société ultra-libérale avec plein de cases. Ne serait-ce que d'être une femme face à une femme aujourd'hui, je trouve ça intéressant, mais j'aimerais bien qu'on arrive à un moment où en fait on n'ait plus besoin d'être ou des hommes ou des femmes, qu'on puisse quitter un peu ce modèle totalement binaire et écrasant pour tous ceux qui sont ni hommes ni femmes, voire les deux, par exemple. On est quand même si on est en France, dans un pays qui n'est pas en guerre, la situation n'est quand même pas idyllique. On a un taux d'analphabétisme qui est grandissant, de plus en plus de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est simplement insupportable, en fait. On fait avec, on essaye de non pas de faire comme si ça ne nous touchait pas, mais en tout cas d'y pallier en proposant des alternatives. Et moi, mon biais, c'est par la musique, par le spectacle vivant, par la culture, par le dialogue.
Par une résistance douce. Ces clips de votre dernier album se passent en partie en Bretagne, au Cap d'Erquy. On vous voit justement sur la plage, pieds nus, dans un univers assez paisible, aussi paisible justement que ces chants, et puis que cet espace que vous laissez à la musique, cette manière de casser aussi cette musique standardisée qui est passée par le prisme aussi d'une industrie. C'est aussi une autre manière de s'engager.
Je pense que le plus on est soi-même, le plus on est vrai, sincère et indépendant, d'abord le plus on se fait du bien et le plus on peut faire du bien à d'autres. Moi, j'ai quand même l'espoir que la manière dont on fait de la musique, ou en tout cas la manière dont nous on travaille, va pouvoir toucher d'autres personnes. Je dis ça parce que pour revenir à ce qu'il disait Michel, je l'appelle Butor. Michel, hein, Monsieur Butor, sur l'utilité, le fait d'avoir régulièrement croisé des personnes qui tout d'un coup vont vous raconter leur vie, éventuellement venir à vos concerts, ressortir ému, qu'il y ait 10 personnes, 15 personnes, 1000 personnes, 100 000 personnes, pour moi, il n'y a pas de différence. Ce que j'essaye de faire, c'est être le plus vrai possible et essayer de toucher vraiment les gens. Et quand ça marche, en fait, à partir de là, on peut commencer à dialoguer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que on est tous sensibles, on est tous porteurs d'un parcours, d'une histoire très, très complexe, et que ce qui fait qu'on est en bonne santé du bon côté de la frontière, c'est vraiment une question de hasard.
Alors, la frontière dans ces clips, c'est l'eau, c'est la
oui,
mer, c'est l'océan.
Aquatique.
Et vous parliez de Léonora Miano qui elle-même parlait aussi des migrants et des sujets qui l'ont préoccupée sur cette question-là. Vous dites que Nuit vous a beaucoup inspirée aussi. Justement, quelle part vous prenez-vous dans ces sujets politiques-là, dans vos textes, dans votre écriture, Sarah Nkake?
Bah, je pense que ils sont prégnants tout le temps. En regardant un peu le fil de l'écriture, je me suis aperçu, enfin, je me rendais pas vraiment compte, mais je me suis aperçu que, en fait, c'était là, pas toutes les chansons, mais presque. Que j'ai quand même du mal avec le concept de nationalité, par exemple, comme avec le concept de frontière. À partir de quand, qui a décidé que un endroit était sa possession, voilà, et que encore une fois, c'est le hasard de mon passeport qui fait que je suis française et que j'ai le droit de résider ici. Mais si ma mère avait voyagé un peu plus longtemps, je serais née ailleurs et je serais peut-être comme certains de mes frères et sœurs d'humanité en train de traverser la mer pour essayer de survivre, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Souvent, on me pose la question de, ah, mais alors, quelle est la différence entre la personne et l'artiste? Mais ça n'a pas de sens pour moi. Quand je suis sur scène, je suis pas simplement artiste. Je suis aussi avant tout une personne.
D'ailleurs, vous travaillez avec des élèves aussi. Vous avez fait des clips. Vous avez encouragé à écrire des gens qui vivent autour de vous aussi. Vous avez des contacts avec des associations. Vous avez pu l'évoquer tout à l'heure, Sandra
Nkake.
Oui, Nkake.
Mais alors c'est vraiment une chance de pouvoir. Bah, répondre quand on vous appelle, quand on pense qu'on a besoin de vous. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Nicolas Ferrand, des Amoureux au Bon Public, qui m'avait contacté il y a quelques années pour un projet avec Rodolphe Burger et Jacques Higelin, que j'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là. Voilà, qui disait que, bah, en fait, il y a tout un pan du combat pour les couples franco-étrangers, qui va être un combat administratif, juridique, mais que souvent, pour aider au combat, on a besoin de, bah justement, de baisser les armes un peu. Et que la musique, le théâtre, la poésie, les nourrissait tout autant que l'aide juridique. Et ça, c'est vraiment, c'est fondamental, parce que ça permet de rêver, ça permet de, oui, de se projeter, en fait, de projeter un avenir meilleur. Donc, effectivement, si on m'appelle, je viens. L'année dernière, on a participé à un projet avec, initié par Émilie Loiseau, qui s'appelle Fais un bateau. Voilà, c'est en hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes qui traversent la mer. C'était une manière de dire que, ben, qu'on aurait pu être à leur place. On a cette chance de pas être à leur place, mais on aurait pu être à leur place. Et voilà, on n'a pas la possibilité politique de faire en sorte que leur situation soit améliorée, mais en tout cas, on a cette possibilité humaine, artistique de le faire. Et puis, quand tu as travaillé avec des enfants, notamment pas mal de collégiens, c'est pas du tout une spécialité, mais c'est quelque chose que j'ai adoré faire.
C'est du côté de Saint-Denis, là où vous êtes, ou pas?
Oui, alors on l'a fait à Saint-Denis une fois, et on l'a fait à Amiens aussi. Et c'est vraiment magique parce que c'était un réel aller-retour. Je suis pas arrivée en disant, bon, alors moi je sais des choses, et puis je vais vous les enseigner, et puis vous avez qu'à apprendre. J'étais plutôt dans la position où j'avais envie de leur dire, voilà, moi j'ai un certain savoir-faire, j'ai des outils, je vous les mets à disposition. Faites-en ce que vous voulez, mais surtout, si possible, exprimez qui vous êtes. Et c'est vrai que c'est pas facile, notamment quand on est comme ça, ado, entre 13 et 15 ans. C'est vraiment un moment un peu charnière où on commence à avoir une vision du monde et en même temps où on se sent totalement oppressé par tout un tas de questionnements et qu'on se pose la question de ils sont vraiment à l'âge où ils sont en train de se poser la question de ce qu'ils vont faire dans la vie. Et nous, on a essayé de leur dire, peut-être posez-vous la question de qui vous avez envie d'être dans la vie. Et voilà, et parfois des élèves en, qui sont étiquetés en échec scolaire se sont avérés être des personnes d'une générosité et d'une créativité, d'une inventivité, mais absolument fabuleuse. Ils avaient envie de plein de choses. Et moi, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils nous ont dit, ben, on veut écrire une chanson, puis on veut réaliser un clip. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Et donc, on s'est posé la question de à quoi sert une chanson? Qu'est-ce qu'on, pourquoi on écrit une chanson? Comment on va l'écrire? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et à quoi sert un clip? Comment mettre en image, les mots qu'on a écrits, en tout cas, comment étendre un peu plus, comment étirer un peu plus la poésie des mots. Et c'était vraiment très intéressant.
Alors ça passe aussi, d'ailleurs, le côté alternatif, ça passe aussi par les modèles et les circuits que vous avez empruntés, puisque vous avez autoproduit ce dernier album. Alors c'est la liberté et l'indépendance aussi que de pouvoir autoproduire ce que l'on fait.
On va dire que c'est une co-indépendance, parce que, évidemment, donc, autoproduit, mais j'ai la chance d'avoir des super partenaires qui l'ont distribué, parce qu'on peut quand même pas faire les choses tout seul, et je crois pas... Moi, je pense que je suis un animal grégaire total.
Ça veut dire quoi, un animal grégaire?
C'est-à-dire que je suis une solitaire, mais en même temps, je crois à la force du collectif, et je pense que ça, c'est mes premières années de théâtre qui m'ont marqué à vie, qu'on n'est pas seul, qu'on est une forme de vibration qui répond à d'autres vibrations. Donc voilà, de l'avoir produit en indépendance, ça m'a permis d'être maîtresse du temps et de vraiment faire ce que j'entendais. Et j'ai la chance d'avoir un partenaire de production génial qui s'appelle Didru, avec qui on a vraiment collaboré pendant de longs moments, et grégaire parce que je suis accompagnée par Jazz Village et Pias, et puis aussi par des partenaires pour la tournée, parce qu'on peut pas tout faire tout seul, on peut pas penser des histoires, les écrire, les produire, les réaliser, les enregistrer, et puis les défendre, être attaché de presse, être tourneur, c'est pas possible. Enfin, peut-être que c'est possible, mais dans ce cas-là, en tout cas, moi, je pense que je l'aurais mal fait. Et puis, j'ai pas envie. Je trouve ça bien de travailler à plusieurs, parce que ça permet d'avoir d'autres visions de la même réalité et surtout d'ouvrir des possibles.
Alors, on parlait de l'espace intime de la Lune Rousse que vous avez imaginé. Pourtant, c'est un travail aussi de collaboration artistique avec Didru, avec ce flûtiste. Alors, comment est-ce qu'on arrive dans un espace intime en étant plusieurs musiciens?
Déjà, l'intimité, ce n'est pas sa vie personnelle. Pour moi, l'intimité, c'est vraiment la vérité de la vibration qui nous est traversée. Et ça, pour la transcrire en musique, c'était vraiment chouette de travailler en binôme. Parce que l'occurrence, là, pour l'écriture et la réalisation, on était vraiment à deux. Après, le travail en groupe, c'était dans une deuxième phase. Mais la première phase avec G, c'était vraiment se poser plein de questions. D'abord, il m'a demandé ce que j'avais envie de dire, qu'est-ce que j'avais envie d'exprimer. Et ce qui est drôle, c'est que ce qui est venu en premier, c'était pas des mots, c'était des gestes. Je lui ai dit, j'ai envie de ça.
Donc là,
je suis en train de mimer, voilà, les mains qui viennent vers l'intérieur, plutôt que ça. En fait, je voulais quelque chose d'horizontal et pas de vertical, et de posé. Et je voulais de la fragilité, je voulais du souffle, je voulais. Voilà, quelque chose de... Au départ, c'était diffus et en même temps très, très clair. Et donc, voilà, on a commencé à avancer comme ça avec des mots-clés. Et puis, les chansons sont nées assez rapidement. Donc, soit des débuts de texte avec des mélodies, soit de la musique. Et puis, on s'est posé la question de l'instrumentation assez rapidement. Et puis, voilà, les choses se sont goupillées assez, assez bien.
Et ça a donné ce dernier album, Tangerine Moon Wishes. Merci Sandra Nkake d'être venue aujourd'hui. L'album est d'ores et déjà disponible et vous serez en concert cet été dans toute la France. Deux petits exemples, le 14 juillet au Festival Afropunk de la Villette, le 20 au Festival Cabaret Frappé de Grenoble et le 29 au Festival Comos Jazz de Chamonix. Les autres dates sont à retrouver sur la page de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour parler de Licorne à l'occasion de l'exposition que leur consacre le musée Cluny avant de faire le portrait de l'artiste non moins magique Claude Ruteau. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne-Toscane Viodès et Anne-Olivia Marchaison. À la réalisation Marie Placé, à la technique Élise Leu. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.